Dank sei dem Herrn.
Remercier soit le Seigneur
für das große Vorrecht,
pour le grand privilège d'être ici aujourd'hui
anzubeten,
pour adorer
und dem Herrn zu begegnen,
et rencontrer le Seigneur,
mit ihm,
avoir communion avec lui
und zu haben.
Et les uns avec les autres.
Ich habe bereits am Sonntag
déjà in dimanche Zürich, à Zurich
und am Mittwoch,
et mercredi soir,
hier einen Bericht gegeben,
ici j'ai rendu un exposé du dernier voyage missionnaire qui était l'un des plus importants et des plus richement bénis. Mais il m'est difficile ce soir de répéter deux fois, et pour la troisième fois, ce que j'ai déjà fait deux fois, ce que j'ai déjà dit deux fois. Dieu voulant, alors, cette fois-ci, dans la lettre circulaire, certaines choses vont être écrites concernant ce que Dieu a fait. Et c'est ce que je vous demande de la compréhension, que ce soir, nous n'allons pas encore rendre un exposé, mais que tous pourront le lire dans la lettre circulaire qui sortira bientôt. Je peux que dire que Dieu a au-dessus de toute mesure béni, accordé sa grâce, ouvert de nouvelles portes, et pas seulement ça, mais aussi beaucoup de cœurs. Et quand on entend la chorale chanter, et aussi la parole, on pense à la parole du Seigneur de Matthieu 10, de Matthieu 9. La moisson est mûre, est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En plus, je l'ai dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, verset 37. Pas dans ma moisson, pas dans ta moisson, mais dans sa moisson. Priez pour que lui, il envoie. Et celui qui est envoyé par le Seigneur fera la volonté du Seigneur. Celui qui va de lui-même, il va moissonner, il va récolter lui-même. Ce qu'il va moissonner, cela est à se poser comme question, mais celui qui est envoyé par le Seigneur récoltera la moisson du Seigneur. Il accomplira soigneusement pour le Seigneur ce qu'il lui a dit de faire. Je n'ai pas remis la salutation de ceux que nous connaissons, particulièrement du frère Arthur David de Matrat, et ensuite du frère Gail Noble de Ramalspindi, et encore ici et là, des frères ont remis des salutations particulières à tous, et aussi ceux que nous ne connaissons pas, ou bien que vous ne connaissez pas, ont malgré tout remis des salutations. Laissez saluer. Oui. Et ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu, observer la parole de Dieu. Je ne sais pas moi-même ce qui doit être dit, Dieu le sait. Et si nous lui faisons confiance, chacun sera servi. Chacun pourra repartir avec quelque chose. Pour chacun, il y aura de la parole. Quelque chose qui lui sera apporté, qui pour le fortifier, pour l'édifier, pour le consoler, pour le relever et pour lui procurer de la force et du courage. J'espère que nous écoutons la parole de Dieu dans la prière. Et que le Seigneur, lui, fera le reste. Il y a deux pensées de la parole d'introduction qui ont retenu mon attention. L'une avec la pensée du jugement et l'autre avec les noms qui sont écrits dans le livre de la vie. Et tout de suite, j'ai ouvert les deux écritures qui courtement et brèvement redonne ses pensées. L'un des versets est dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Les 70 disciples étaient revenus et se réjouissaient de ce que les esprits leur étaient soumis. Et le Seigneur leur dit ici, au verset 20, dans Luc 10, au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Toutes les bénédictions, toutes les expériences, tout ce que nous pouvons avoir ne peut pas remplacer cette réalité que le nom des rachetés est écrit aux cieux. Dans les cieux. Et ça, c'est notre joie. Et ça, c'est notre joie. Et j'ai continué à lire et j'ai constaté que notre Seigneur a tressailli de joie. C'est peut-être le seul verset que, au moins moi, en ce moment, je sais, je connais, où il est écrit que Jésus s'est réjoui, a tressaillé de joie, a loué. J'ai lu dans Jean 11 qu'il pleurait alors qu'il était à la tombe de Lazare. J'ai lu qu'il était attristé et qu'il s'était mis en colère alors qu'il était allé dans le temple. Il y a beaucoup d'occasions qui le décrivent de manière différente, en tant que l'homme de douleur. Mais ici, dans Luc, le chapitre 10, j'ai constaté directement, après cette phrase du verset 20, où il est écrit, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et puis, il est écrit ensuite, « En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit. » Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Et ça, c'était justement au moment où il avait dit aux siens, réjouissez-vous. Pas, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, vous obéissent et que vous avez le pouvoir pour guérir les malades. C'est merveilleux, c'est glorieux. On peut exposer là-dessus. Mais la joie commence là où Dieu a accordé sa grâce et a des hommes de recevoir la rédemption en Jésus-Christ le Seigneur par la foi. Et s'il est écrit, nous l'avons lu en ce moment-là, au verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, quand est-ce qu'un homme loue qui vient à la foi en Jésus-Christ, quand est-ce qu'il tressaille de joie? Vous savez d'abord, il y a une tristesse, il y a un regret, une repentance sincère qui veut nous apporter dans l'état où nous reconnaissons la grâce de Dieu et expérimentons personnellement la grâce de Dieu. Mais quand cet état de prière, avec la repentance et le regret, et une conversion, de se tourner personnellement, réellement à Dieu, et quand cette phase prend fin, alors subitement, une joie et une louange commence. Et combien de fois lors des conversions, nous l'avons vu, que les cœurs, on commençait à louer et à exalter le Seigneur. Et la pensée principale était, je sais, que mon nom est écrit dans le livre de la vie. On doit l'avoir expérimenté personnellement, réellement. Et ça, je pense que nous ne venons pas ici seulement pour écouter la parole de Dieu, et pour comme ça la laisser résonner dans nos oreilles, mais pour vraiment l'écouter, l'entendre et aussi expérimenter personnellement ce qui nous est prêché, ce qui nous est dit. Au moment où le Seigneur Jésus pouvait dire aux siens, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est à ce moment-là qu'il a tressailli de joie par le Saint-Esprit avec ces mots. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Comment est-ce que les choses doivent aller pour toi et pour moi? Si nous avons vraiment reçu dans notre cœur la certitude et savons que nos noms sont écrits aux cieux, si notre Seigneur, lors de cette occasion, louait et tressaillait de joie, alors ça aussi, c'est mon occasion, c'est ton occasion pour remercier Dieu pour la rédemption et pour cela, de ce qu'il a écrit nos noms avant même la fondation du monde dans le livre de la vie ou bien de l'agneau immolé. Qui de vous, je ne vous ai pas besoin de lever les mains, mais qui de vous a vraiment une fois remercié de tout son cœur déjà Dieu pour cette réalité? Je vous dis, c'est nécessaire. Un homme qui a expérimenté le salut de Dieu, il ne pourra pas passer outre, il ne peut pas. L'heure doit arriver où l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cela. Et alors la joie, la certitude, la joie à cause de la certitude que nos noms sont écrits aux cieux remplira notre cœur. Et avec cette certitude, alors il y a quelque chose qui remplit notre cœur de reconnaissance et de joie. Oui, je sais que mon nom est écrit là-bas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne sais pas si il y a encore un verset, un unique verset où il est écrit que Jésus louait. Mais justement dans cette heure, au moment où l'importance a été mise sur le fait que les siens doivent se réjouir, pas de ce que les esprits leur est soumis, ou bien leur obéissent, mais plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà ce qui devrait être l'objet de notre joie. Car il y en a qui auront chassé des démons dont leurs noms ne sont pas écrits aux cieux. Car dans Matthieu 7, au verset 21, il est dit que beaucoup viendront en ces jours et diront, n'avons-nous pas en ton nom chassé des démons et fait ceci et cela? Et le Seigneur doit leur répondre, je ne vous connais pas. Mais ici, il y a des gens qu'il a appelés, qu'il a mis à son service, qui sont allés envoyés par lui, qui ont fait sa volonté et qui ont prêché sa parole et qui ont apporté sa grâce aux hommes. Et malgré tout, en résumant cela, le résultat de tout cela a été souligné, relevé. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Si ce culte ce soir ne produisait pas plus que ça, ou bien autre chose, ou bien plus que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir si profondément et que de tout notre cœur, nous puissions avoir cette certitude et repartir avec cette certitude à la maison que nos noms sont écrits. Écrit aux cieux et avec notre Seigneur, tressaillé de joie par le Saint-Esprit. Alors nous pourrons dire aussi, Père, Seigneur du ciel, je te remercie, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux enfants, aux sages, mais que tu les as révélées aux enfants. Encore suit le verset 23 de Luc 10, Et se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, bénis les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ces disciples étaient autour de leur Seigneur qui les avait appelés et qui les avait mis à son service, qui les avait établis et dont leur nom était écrit aux cieux. Et ils pouvaient dire, bénis sont vos yeux parce que vous voyez et vos oreilles parce que vous entendez. Beaucoup de justes et de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si le Seigneur se tenait ici aujourd'hui, si pouvait se tenir ici, il dirait et il utiliserait les mêmes mots, les mêmes paroles. Beaucoup ont désiré voir ce que nous voyons et entendre ce que nous entendons. Et dans ce temps, vivre dans le temps dans lequel nous vivons. Et nous avons ce privilège, par la grâce de Dieu, de vivre dans ce temps où toutes choses sont en train d'aller à leur point culminant, à leur achèvement. Et nous pouvons fixer nos yeux sur les choses principales sur lesquelles Dieu lui a fixé les yeux, c'est-à-dire le salut de nos âmes, le salut de Dieu et ce qui s'est passé pour nous et avec nous. Comme prochaine chose, c'était aussi les pensées avec juger les juges de la terre desquels les cieux ont fui. Ici, dans Jacques, chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. Jacques 4, verset 12. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dans cette parole, il est écrit un seul, pas deux ou trois, mais un seul est législateur. Et le législateur est aussi le juge. Si nous sommes aussi législateurs, alors nous pourrons être juges. Mais si nous ne sommes pas législateurs, nous devons faire attention de ne pas nous-mêmes être jugés. La parole m'a très retenu mon attention. Ici, il est écrit, un seul est législateur. Et c'est lui le législateur, c'est lui le seul juge. Et il ne juge pas comme il veut, il juge selon sa loi. Et Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il parle de l'homme impie, en allemand le transgresseur de la loi, le fils de la perdition. Et Jean écrit, dans 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché par la loi est apporté en lumière, pas par des arguments, mais c'est la loi qui nous convainc du péché. Auparavant, il est écrit ici, au verset 11, ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Personne peut te le dire à toi et à moi si clairement que ça. Et il n'y en a pas beaucoup qui respectent aujourd'hui la parole de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont restés, qui vraiment respectent la parole de Dieu. Tout le monde retire les raisins secs du gâteau et ensuite pense pouvoir se remplir la bouche. Mais ceux qui sont prêts à vraiment, sincèrement, mettre chaque parole de Dieu en pratique et croire chaque parole de Dieu et aussi ce qui les concerne, chacun, n'est-ce pas, peut se rendre des choses faciles de croire des paroles qui concernent les autres. Ça, c'est une chose que chacun peut faire. Il n'a pas besoin de s'efforcer, de produire des efforts. Mais la parole qui te concerne, qui me concerne, qui te place dans la lumière de Dieu et te place devant le miroir de la parole, justement ce que nous ne voulons pas croire, c'est justement ce que nous devons croire, qui nous concerne nous-mêmes. C'est ça justement que nous devons croire pour que Dieu puisse nous aider. Est-ce que nous remarquons ici cette phrase sérieuse ou bien ces passages ici? Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de son frère, ou alors d'un frère en français, ou qui juge son frère, parle mal de la loi. Oui, mais toi tu dis que j'ai rien contre la loi. J'ai rien dit de mal contre la loi. Mais tu as seulement dit quelque chose de mal contre ton frère, alors tu l'as dit contre la loi de Dieu. Tu peux dire, je n'ai jamais dit quelque chose de mal de la loi. Alors Dieu, lui, il sera ton juge à cause de la loi, tel que toi, tu as été juge de ton frère. Et je te dis que ce qui restera, pose-moi la question, celui que tu as jugé sera justifié, sera libre, mais si toi, tu seras justifié et libre, ça, c'est la question. Mais on rendra compte, les livres seront ouverts, et tout est écrit, et alors, on rendra compte. Car celui qui parle mal contre son frère parle mal contre la loi et juge la loi. Pas seulement qu'il parle mal de la loi, mais il juge même la loi en parlant mal de son frère. Et la loi n'est pas là pour que toi et moi on la juge, mais elle est là pour que toi et moi, par la loi, on soit jugé. Et cela est seulement possible là où, de tout notre cœur, nous pouvons nous soumettre à la loi. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, ça c'est la parole de Dieu. Croyez-moi, j'ai pensé à toute autre chose que à ça. C'est pas de moi. La parole d'introduction nous a tous menés à Luc 10. Et aussi, nous sommes reconnaissants. Et à Jacques 4, de la même manière, à cette écriture, ce n'est pas la parole de notre chant que nous sommes venus à lire ces versets. J'ai une prédication de Frère Branham ce soir ici, et vous savez que c'est la nourriture spirituelle qui nous fortifie et nous affermit et nous nourrit. Et ce qui est merveilleux dans ces prédications consiste à ce que elles n'étaient pas des théories qui ont été apportés aux hommes, mais que Dieu, dans sa grâce, se tenait derrière ces paroles et les a confirmées. Et c'est ainsi qu'il a rendu les promesses réelles. Il les a accomplies et il a attiré son attention à lui, donc Dieu, en ce qu'il a confirmé ce message. Et il nous propose ainsi sa grâce. C'est une parole du prophète Ésaïe que je voudrais lire, du prophète Ésaïe, le chapitre 52, à partir du verset 13. Voici Ésaïe 52, verset 13. « Mon serviteur prospérera. » Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ici, déjà, nous sommes de nouveau à la même parole, comme dans Luc chapitre 10. Bénis les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Ici, il est dit deux choses sur le Seigneur. L'une, qu'il a été défiguré et son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et qu'ensuite, il prospérera, il montera, il s'élèvera à tel point que des peuples et des rois fermeront la bouche et des peuples, il sera pour les peuples un sujet de joie. Et car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Il leur sera prêché ce qu'ils n'avaient jamais entendu en allemand. Ça, c'est une grande grâce. L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pouvons l'entendre pendant des milliers d'années et ce serait toujours quelque chose de nouveau qui serait contenu dans cet évangile pour nous, qui, toi et moi, irait dans le cœur, dans notre cœur. Il y a beaucoup parmi nous qui, n'est-ce pas, ne sont pas là seulement depuis quelques semaines ou bien quelques jours seulement, ou bien qui le servent, mais qui depuis des années le servent et ont écouté sa parole. Et tout de nouveau, nous pouvons le témoigner. Nous trouvons quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que subitement, une lumière tombe sur la parole. Nous sommes éclaircis et nous pouvons voir la gloire de notre Dieu dans sa parole. Car ils verront ce qui leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Il leur sera prêché ce qu'ils n'avaient point entendu et ils fermeront la bouche devant lui car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Oh, comme glorieux et merveilleux. Nous savons que la description de notre Seigneur en tant que Messie commence ici dans Ésaïe 52 à partir du verset 13. Et se termine ici dans Ésaïe 53 avec les derniers versets qui ne sont pas toujours lus. Mais ici, il nous est représenté devant les yeux. Il nous a montré, mais directement après, il écrit les choses suivantes. À partir du chapitre 53, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? À quoi est-ce que ça sert si les plus grandes choses et merveilleuses choses sont prêchées, que nous n'avons jamais vues, qui nous ont jamais été racontées, que nous n'avons jamais entendues, si on ne les croit pas et on ne les accepte pas, on ne les reçoit pas? Le même Esprit de Dieu qui par la bouche des prophètes ici parle, du prophète ici parle et dit, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Il relit Ésaïe 52, verset 15b. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Il leur sera prêché ce qu'ils n'ont jamais entendu. Ensuite, il suit. Mais qui a cru à ce que nous avons prêché? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Vous voyez, c'est le contexte. Ça continue. Ça, c'est le passage. Au chapitre 53, au moment où des choses de la parole de Dieu nous sont dites, que personne ne l'a déjà raconté auparavant, que personne a vu auparavant, alors il s'agit toujours que nous puissions croire. Car elle est dit ici, qui a cru? Et vous voyez, quand on parle de ce que notre Seigneur a révélé à notre bien-aimé frère William Branham, parfois, alors, il y en a qui sont là, qui disent simplement, ah, ça, en fait, je l'ai déjà su. Et en fait, vous savez, ils ne savent pas très bien en disant ces choses quand est-ce qu'ils l'ont déjà su. Car s'ils avaient compris la portée de ce que Dieu a fait dans notre génération, il a même dit ici que même les rois fermeront la bouche, Ésaïe 52, verset 15. Et il leur serait accordé de l'oreille pour entendre et des yeux pour voir. Celui qui déjà formule sa réponse, avant même qu'on lui dise ce que Dieu a dit, a révélé, ça veut dire qu'il n'a même pas appris à écouter, à entendre, à écouter. Mais vous savez, c'est comme ça, c'est un problème pour soi. L'homme qui naît dans ce monde, il doit apprendre beaucoup de choses. Il doit apprendre à marcher, il doit marcher à manger, il doit apprendre à manger, il doit apprendre beaucoup de choses. Mais l'ouïe, l'audition, l'écoute, c'est là ou bien alors c'est pas là. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Cela lui a été, il a reçu à sa naissance. L'ouïe, l'écoute, l'audition, c'est automatique. Donc, quand nous comprenons que Dieu a ouvert l'oreille de son peuple, comme le prophète Ésaïe, dans d'autres passages, dit, Ésaïe 50, verset 5, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Ésaïe 50, verset 5. C'est Dieu qui nous ouvre l'oreille, qui nous ouvre l'oreille pour parler avec nous. Mais pas seulement ici, de manière acoustique, mais ça doit aller un peu plus profond dans notre cœur, c'est-à-dire, Paul parle des oreilles du cœur. Des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Que Dieu puisse me l'accorder et que Dieu puisse te l'accorder. Et un cœur qui croit et qui reçoit ce qu'il a dit. Des choses dont les rois ou bien quelque chose de quelqu'un ne savait pas et que personne ne les a racontées auparavant. Ils verront ces choses que personne leur a racontées et ils entendront les choses que personne ne leur a prêchées et ils le recevront. Et nous aussi, nous l'avons reçu et nous avons la grâce de remercier notre Seigneur pour cela, de ce que nous avons eu la grâce de croire la prédication, le message, la parole de Dieu. Et alors, c'est une foi qui est selon les Écritures, qui est telle que dit les Écritures. Et cette foi qui est scripturaire, qui est comme les Écritures, aura un résultat, va produire quelque chose. Frère Branham, ici, dans cette prédication, la foi parfaite parle de plusieurs choses qui, en moi et en nous, seront une bénédiction et nous fortifieront tous. Il lit le texte qui nous est connu de tous, de Marc chapitre 11. Et ici, il est écrit, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez seulement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir en allemand et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est la condition pour que la foi produise son effet dans toute sa puissance et soit manifesté. Que devant la face de Dieu, nous puissions apparaître. Et ici, il n'est pas question de ce que nous soyons sans erreur, mais il a écrit justement de nous pardonner les uns les autres. Parce que, et il a même dit, tel que Dieu nous a pardonné en Christ, Colossiens chapitre 3. Et c'est ainsi que nous devons nous pardonner les uns les autres. Fondamentalement, déjà avoir pardonné. Et personne ne doit, dans les moindres des choses, imputer quelque chose à quelqu'un. Vous savez que l'adversaire, c'est comme ça qu'on le dit, si c'est vrai, je ne sais pas. Il est un artiste à mille idées. Et il a l'art de faire d'une petite chose un grand problème et de quelque chose qui n'est rien du tout. Il en fait un problème avec lequel on ne peut même pas en finir. Mais avec l'aide de notre Dieu et avec l'accès libre au trône de la grâce, il faut que la foi en nous saisisse la main de Dieu et la confirmation de la parole de Dieu, et elle attirera la confirmation de la parole de Dieu à soi. Et ensuite, Frère Branham dit ici, la foi est basée sur le pardon. Après avoir lu Matthieu et Marc 11, Frère Branham dit ça dans cette prédication, foi parfaite. Peut-être qu'on n'a pas vu ça comme ça ici, hein, mais ça, c'est la première phrase après qu'il ait lu dans la prédication Marc 11, verset 22 jusqu'au verset 26. Il dit ici, dans la prédication, juste après avoir lu le verset, la foi est basée sur le pardon. Un homme qui vraiment de tout son cœur croit, il reçoit le pardon et il a pardonné tous ceux sans considérer, indépendamment de ce qu'il lui est demandé pardon ou pas. Il le pardonne même à l'avance. Vous savez, il n'attend pas qu'on vienne lui demander pardon. Et vous savez que on a souvent dit plusieurs choses au Seigneur, lui avons demandé de nous pardonner nos offenses, mais aussi il y a des choses inconscientes que nous ne pouvions pas dire au Seigneur, et malgré tout nous lui avons apporté cela dans la prière, qu'il puisse nous purifier et nous laver de toute transgression consciente et inconsciente que nous ignorons, qu'il puisse nous purifier et nous laver. Et la même chose est aussi valable les uns entre les autres. Nous vivons déjà longtemps avec ce que Dieu nous a révélé. Donc ces choses, ce n'est pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les uns les autres. Et nous n'avons pas encore vu la confirmation dans sa gloire de la parole de Dieu, quoi que nous devons avouer, que nous croyons la parole de Dieu dans le plus profond de notre âme. Et malgré tout, nous n'avons pas encore vu que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans notre vie. Il est impossible que Dieu en soit responsable. Car Dieu a dit oui et amen à toutes ses promesses telles qu'il les a données. C'est ainsi que c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, au verset 20 et 21. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Ici, il nous est dit, la foi est basée sur le pardon. La foi est basée sur le pardon. Et comme nous l'avons dit ce matin, il lit la citation, alors que nous efforcions de ramener l'Église au point où nous pourrions réellement voir parmi nous la restauration des temps apostoliques, ce à quoi nous aspirons tous. Ça, ce n'était pas seulement un souhait religieux, mais par la prédication, la foi a été produite dans notre cœur. Et nous avons entendu ces prédications, ces promesses qui nous appartiennent. et après les avoir entendus, une faim spirituelle a inondé notre cœur. Et c'est ainsi que Frère Branham n'a pas cela, il ne l'a pas seulement réclamé seulement pour lui seul, pas seulement pour lui, mais pour nous tous. Comme il est écrit ici, il dit, comme nous l'avons dit ce matin, alors que nous nous efforcions de ramener l'Église au point où nous pourrions réellement voir parmi nous la restauration des temps apostoliques, et cela parmi nous, ce à quoi nous aspirons tous. Et ensuite, il dit quelque chose, cela m'a fortifié dans la foi. Il dit, et ce temps est à la porte directement. Nous l'apercevons, mais nous aimerions le voir mieux. Nous souhaiterions que ce soit comme un courant qu'il puisse nous aider et que nous puissions l'apporter aux autres. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pas seulement que nous-mêmes, nous ayons, nous prenons seulement la nourriture spirituelle, nous la recevons, mais tel que notre Seigneur, que nous puissions aussi servir les autres, puissions l'apporter aux autres et que la parole de Dieu par nous puisse trouver son accomplissement et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ça, il aspirait à amener l'Église au point. Et vous savez que à ce point, lui, par la grâce de Dieu, il a atteint cette restauration et Dieu l'a aidé. Dieu lui a accordé des révélations et Dieu a parlé avec lui d'une manière que, comme pour dire, dans sa foi, il avait un soutien, un appui. Mais nous, ici, nous avons une parole de Dieu qui a été confirmée et qui est confirmée et qui doit être confirmé. Et le but consiste à ce que l'Église soit ramenée au point où nous pourrions réellement voir parmi nous la restauration des temps apostoliques, que les actes des apôtres se répètent. Une fois, il y a un prédicateur qui vint à Frère Branham et qui lui disait, mais tu prêches concernant un temps apostolique. Moi, je veux te laisser savoir, que la restauration des temps apostoliques est depuis longtemps passée. Et Frère Branham lui a posé la question, mais encore une fois, mais quand est-ce que le temps apostolique est passé? Moi, je n'ai jamais entendu cela. Et cet homme l'a regardé et lui a dit, et il n'avait pas non plus pu donner la date exactement et le temps. Et alors, Frère Branham lui a dit simplement, moi, je vais te montrer dans la Bible hein, où est-ce que le temps apostolique a commencé, l'âge apostolique a commencé, et toi ensuite montre-moi aussi où est-ce que cela a cessé. Et ensuite, avec cela, le débat était clos. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu et savoir que tout est possible à ses yeux, pour lui. Et nous avons il n'y a pas longtemps parlé de ce que l'Église doit être amené au commencement primitif. Et à l'époque, je n'avais même pas d'idée de cette prédication. Peut-être qu'au moins, je l'avais lu ou bien ce que j'avais dit après. Mais ici, il est dit, nous aspirons à cela, à ramener l'Église au point où nous pourrions réellement voir parmi nous la restauration des temps apostoliques. À ce quoi nous aspirons tous. Cela est devant la porte. Nous l'apercevons, mais nous aimerions le voir mieux. Est-ce que dans le prophète Ésaïe, nous ne l'avons pas lu? En relation avec Christ notre Seigneur, que des peuples et des rois vont entendre parler de ces choses, dont personne ne leur avait raconté cela, et ils leur seront prêchés des choses qu'ils n'avaient point entendues, et ça nous pouvons l'entendre quand Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parmi nous sera élevé, pourra être élevé et manifesté. Pour Dieu, toutes choses sont possibles. Il veut seulement en nous produire une foi biblique et ensuite pour ensuite pouvoir confirmer sa parole. Ensuite, il dit ici, il a porté nos infirmités. Vous savez, il a porté nos infirmités. Il avait toutes choses comme nous les avions. Il avait tout comme nous avions. Car il devait être un intercesseur fidèle. C'est pour cette raison qu'il devait tout supporter avant de pouvoir le savoir. Il pouvait, nous voulons de notre Seigneur, n'est-ce pas, parler de lui de la vue spirituelle et aussi penser à lui de cette manière. Mais quand justement j'ai lu ça ce soir, il les a portés, il a subi les mêmes choses que nous. Maladie, tentation, souci, frustration, tout comme nous, car il devait être le vrai genre de médiateur. Il devait être participant. Il devait être le cultivateur du fruit avant de le connaître. Il a même dit ici qu'il avait des frustrations. Je ne sais pas s'il s'est déjà frustré. Mais les gens ont assez fait en sorte que cela aurait été possible. Mais il devait en toute chose devenir semblable à nous pour être un souverain sacrificateur fidèle qui combattait nos faiblesses. Et cela nous console. Ensuite, il est dit, et ça c'est la dernière citation pour ce soir. Ici, il est dit, nous allons parler maintenant de la foi. D'un genre de foi différent, de la foi parfaite. C'est quelque chose de glorieux. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. La foi vous fait croire qu'il y a quelque chose. Alors qu'en réalité, il n'y a absolument rien d'autre que la foi pour vous faire croire que cette chose existe réellement. J'essaie de vous donner la foi afin que vous soyez prêts pour la ligne de prière qui va avoir lieu dans quelques minutes. Pour que vous soyez prêts pour la ligne de prière. La foi doit venir par ce qu'on entend de la parole de Dieu, par la prédication, doit être produit dans l'homme par ce qu'il entend, par la prédication de la parole de Dieu. Et ce qu'il entend doit venir de la parole de Dieu. Et je crois que si, dans ce temps, nous écoutons les prédications, les promesses de la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire d'autre que alors de croire ce qu'il a promis, de croire ce qu'il a dit. Combien de fois j'ai fait cette remarque? Dieu et la parole de Dieu sont dignes de foi. Et même si nous ne pouvons plus faire confiance à un homme, ou bien ne plus faire confiance, croire à un homme, ou plus faire confiance, et que nous avons été déçus de toutes parts. Mais il est écrit dans le prophète Ésaïe et dans l'épître aux Romains, celui qui croit ne sera pas confus. Je mets en Sion, je place en Sion une pierre du coin, et celui qui met sa confiance en elle ne sera pas confus. Si nous mettons notre confiance sur cette pierre, ou bien sur des autres, alors nous serons tous confus. Mais si nous, ensemble, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous nous confions seulement en lui, alors ensemble, nous serons fortifiés dans la foi et édifiés. Et c'est ainsi que nous allons apprendre à marcher dans la foi et à faire confiance au Seigneur qu'il est plus que capable d'accomplir toutes les promesses qu'il a données. La foi qui vient de la parole de Dieu. Prends Dieu au mot et vois les promesses de Dieu accomplies comme une réalité, dans leur réalité. Toutes les promesses de Dieu d'abord sont constitués, existent en tant qu'une parole écrite. Mais la parole de Dieu n'est pas comme ça une pièce vide, mais la parole de Dieu est remplie de puissance de Dieu. Et nos paroles sont des paroles vides. Mais qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Et il dit, et ce qui est écrit n'est pas écrit en vain, mais Dieu fait ce qu'il dit, ce qu'il promet. D'abord, il y avait les promesses concernant le Messie. C'était seulement une parole, l'une après l'autre. Une promesse, l'une après l'autre. Et ensuite, c'était tout un nombre de paroles de Dieu et de promesses de Dieu qui tous, d'abord, existaient en parole, en écriture. Mais quand le temps fut accompli, toutes ces paroles ont été rassemblées. Et ensuite, il est dit que la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire telle que cela a été avec le Fils de Dieu. C'est comme ça que cela doit être avec tous les fils et les filles de Dieu. Les promesses de Dieu ne peuvent pas seulement exister en parole. Elles doivent et elles vont être manifestées et révélées dans leur réalité, et cela dans ta vie et dans ma vie. Cela me semble comme si le Seigneur voudrait nous dire: oh, si vous pouviez croire, vous verriez la gloire de Dieu. Et je vous dis, nous pouvons croire par la grâce de notre Dieu. Nous pouvons croire comme l'a dit les Écritures. Et Dieu, lui, il prendra soin du reste. Amen. Amen. Levons-nous pour ensemble, de tout notre cœur, remercier le Seigneur. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour la diversité des pensées de ta parole. Ce soir, tu as parlé avec nous et ta parole n'est jamais revenue sans effet, mais elle produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Ce que des peuples n'ont pas entendu et ce que des rois n'ont pas entendu et pour des choses pour lesquelles ils fermeront la bouche, cela ton peuple a entendu. Tout ce que tu as déterminé à être des sacrificateurs et que tu as appelé de leur nom et que tu as racheté, nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur. Et nous te remercions aussi de ce que tu n'as pas seulement distribué, ou nous n'avons pas seulement reçu une foi en général, mais beaucoup l'ont. Mais nous avons reçu la foi parfaite dans la parole parfaite de Dieu, au Dieu parfait qui achèvera son œuvre. Sauveur, donne-nous de comprendre que les choses telles que ton prophète le disait autrefois, que vraiment ces choses-là, nous les apercevons devant la porte déjà, et que tu nous ramènes dans le temps des apôtres, au commencement de l'Église primitive, dans les premières heures. Seigneur, c'est ce que tu as promis de restaurer, de rétablir toutes choses dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et il est écrit toutes choses. Et ainsi te glorifier encore une fois et confirmer ta parole. Je te remercie, oh Dieu, pour ta parole et aussi pour le message de la fin des temps, pour la parole révélée. Alléluia. À ton nom soit la gloire. Alléluia.
Amen.
Oh Dieu. Mon Dieu. Apprends-moi à prier. à supplier dans la foi, apprends-moi à supplier. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu connais la détresse. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à supplier. À te faire confiance comme un enfant. Apprends-moi à prier. Tu es mon Seigneur et Dieu. Tu connais les problèmes. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à prier. Et encore une fois, nous prions. Et encore une fois, en priant, nous chantons ce cœur. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à persévérer, à faire confiance comme un enfant. Apprends-moi à prier. Tu es mon Dieu et mon Seigneur. Tu connais les détresses. Apprends-moi à croire, apprends-moi à prier.
Amen.
Amen.